Bonjour, je suis Olivier, bienvenue dans le podcast de 9R3. Aujourd'hui, je vais résumer et critiquer le livre. Tito, de l'historien slovène Jože Piržević, est une vaste biographie politique de Josip Broz Tito, 1892-1980, dirigeant de la Yougoslavie socialiste pendant près de 4 décennies. Fondée sur un travail archivistique mené sur plusieurs décennies et sur des sources dans de nombreuses langues. L'ouvrage refuse les images simplificatrices du héros antifasciste comme celle du tyran réduit à sa seule répression. Il suit la formation de Broz, son ascension dans le mouvement communiste, son rôle à la tête des partisans durant la Seconde Guerre mondiale, puis son installation au pouvoir. Piržević examine également la rupture avec Staline, la recherche d'une voie socialiste propre à la Yougoslavie et l'importance internationale du non-alignement. Mais cette reconnaissance diplomatique n'efface pas le caractère autoritaire du régime, la persécution des opposants ni le culte personnel entretenu autour du maréchal. Le livre vise ainsi à comprendre comment un homme, un parti et un État multinationaux se sont durablement confondus, ainsi que les fragilités léguées par cette concentration du pouvoir. Je vais vous présenter les points clés de ce livre. Premièrement, de l'ascension communiste à la fabrication d'un chef partisan. Piržević replace l'ascension de Josip Broz dans les crises qui traversent l'Europe centrale et balkanique au XXe siècle, pauvreté sociale, guerre, radicalisation politique et rivalité nationale. Cette perspective empêche de lire Tito comme un chef naturellement destiné au pouvoir. Son autorité se construit au sein d'un parti communiste yougoslave marqué par les divisions, la clandestinité et les pressions venues de Moscou. L'auteur accorde une place importante aux intrigues internes et à l'apprentissage politique qui permettent à Broz d'imposer progressivement son leadership. La guerre transforme ensuite cette position partisane en pouvoir concret. Tito ne dirige pas seulement une résistance symbolique, il contribue à faire d'une organisation communiste fragmentée une force armée et politique capable d'affronter les occupations allemandes et italiennes, mais aussi de concurrencer d'autres projets yougoslaves. Ce passage du militant au commandant est central pour comprendre la légitimité qu'il revendiquera après 1945. La victoire partisane fournit au nouveau régime une origine révolutionnaire propre, moins dépendante d'une libération imposée de l'extérieur. Piržević montre donc que l'autorité de Tito procède à la fois d'une capacité d'organisation, d'une discipline politique rigoureuse et des conditions exceptionnelles créées par la guerre, sans dissocier cette efficacité des violences inhérentes à la conquête révolutionnaire du pouvoir. Deuxièmement, la rupture avec Staline et l'invention d'une souveraineté socialiste yougoslave. L'un des apports majeurs de la biographie consiste à traiter la confrontation avec Staline non comme un simple épisode diplomatique, mais comme une épreuve constitutive du régime yougoslave. Après la guerre, Tito dirige un État communiste. Pourtant, il refuse rapidement de se placer dans une obéissance durable à Moscou. La rupture soviéto-yougoslave donne à la Yougoslavie une position singulière dans l'Europe de la guerre froide socialiste, mais non subordonnée au bloc soviétique. Piržević éclaire les calculs politiques, les rapports de force et l'ambition personnelle qui sous-tendent cette indépendance. Il souligne aussi que l'autonomie internationale ne signifie pas pluralisme politique à l'intérieur du pays. Le régime cherche une voie socialiste alternative, notamment en se distinguant du modèle soviétique tout en conservant le monopole communiste du pouvoir. Cette distinction est essentielle. La dissidence de Tito envers Staline fut souvent interprétée en Occident comme la preuve d'un communisme plus acceptable. L'ouvrage invite à séparer l'indépendance géopolitique d'un jugement indulgent sur les libertés publiques. La rupture a néanmoins une portée historique considérable. Elle consolide la souveraineté de la fédération, rehausse le prestige de Tito et fournit une base idéologique à la prétention yougoslave d'être un troisième chemin entre les deux grands blocs. Troisièmement, le non-alignement, une ambition mondiale au-delà des Balkans. Piržević situe Tito parmi les figures majeures de la guerre froide en insistant sur son rôle dans l'émergence du mouvement des non-alignés. La politique extérieure yougoslave ne se limite donc pas à préserver le pays de la domination soviétique, elle cherche à donner une portée mondiale à son expérience, dans un ordre international structuré par l'antagonisme entre Washington et Moscou. Le non-alignement propose à des États récemment décolonisés ou soucieux de leur autonomie une coopération qui ne soit pas l'alignement automatique sur l'un des deux camps. Tito y trouve à la fois un projet politique et un instrument de puissance. Il peut présenter la Yougoslavie comme un interlocuteur mondial malgré ses ressources limitées et son environnement régional complexe. Le livre permet ainsi de comprendre pourquoi l'image internationale de Tito a longtemps dépassé le cadre balkanique, chef de la résistance antifasciste, dissident communiste face à Staline et partenaire de dirigeants du Sud global. Toutefois, Piržević ne transforme pas cette diplomatie en récit de pure réussite. Son analyse rappelle implicitement que le prestige extérieur coexiste avec des problèmes internes de représentation, de cohésion fédérale et de contrôle politique. le non-alignement élargit la marge de manœuvre de la Yougoslavie. Mais il ne résout ni les tensions entre ces républiques, ni la dépendance de la stabilité du système à l'autorité personnelle de Tito. La politique mondiale devient ainsi une composante de la consolidation du régime, plutôt qu'une échappée hors de ses contradictions. Quatrièmement, un pouvoir personnel répression. Culte du maréchal et contradiction du régime, la biographie se distingue par son refus de dissocier les succès politiques de Tito des pratiques coercitives de son gouvernement. Pirjevec le décrit comme un dirigeant charismatique et habile, mais aussi comme le chef d'un système autoritaire qui traque durement les adversaires réels ou supposés. La résistance au stalinisme ne doit donc pas masquer les persécutions politiques, les violences de l'après-guerre et l'étroitesse de l'espace démocratique. L'auteur examine également la construction d'un mythe national autour du maréchal. Tito devient un symbole de libération, d'unité et d'indépendance. Cette image est entretenue par la mise en scène du pouvoir, par les cérémonies et par une forte personnalisation de l'État. Le goût du dirigeant pour le luxe et la représentation publique apparaît dans ce cadre comme un élément révélateur. Non, comme une simple anecdote privée, il manifeste la distance entre le chef et la société tout en servant la majesté du régime. Cette approche nuancée aide à comprendre la persistance de mémoires contradictoires. Pour certains, Tito reste associé à la stabilité, à une forme de sécurité sociale et à une visibilité internationale. Pour d'autres, son nom renvoie d'abord à la répression et à l'effacement des libertés. Pirjevec ne tranche pas par une formule morale unique, il analyse comment courage politique, ambition, autoritarisme et sens de la mise en scène ont pu se renforcer mutuellement dans l'exercice du pouvoir. En dernier lieu, l'absence de succession et les vulnérabilités de la Fédération après 1980, le dernier grand enjeu du livre concerne l'héritage institutionnel de Tito. En concentrant une part décisive de l'arbitrage politique dans sa personne, le régime a pu maintenir un équilibre précaire entre les peuples, les républiques et les intérêts concurrents de la Fédération. Mais cette stabilité était difficilement transmissible. Pirjevec insiste sur le fait que Tito ne laisse pas de successeur capable de réunir une légitimité comparable, ni de mécanisme politique assez solide pour remplacer durablement son rôle. Sa mort en 1980 ne provoque pas mécaniquement les guerres ultérieures. Il serait réducteur d'attribuer l'éclatement yougoslave à une seule décision ou à un seul homme. En revanche, elle révèle un vide de pouvoir et des fragilités que son autorité avait contenues ou différées. La disparition de la figure unificatrice rend plus visibles les tensions nationales, institutionnelles et économiques qui travaillent la fédération. Cette analyse donne au livre une portée qui dépasse la biographie individuelle. Tito devient un cas d'étude sur les limites d'un État multinational gouverné par un chef irremplaçable. La centralité du leader peut assurer une cohésion immédiate, mais empêcher l'émergence d'une succession légitime et d'institutions capables de gérer le conflit. Le violent démantèlement de la Yougoslavie dans les années 1990 ne constitue donc pas une conclusion inévitable écrite d'avance. Mais il oblige à réévaluer les coûts différés de la personnalisation du pouvoir. En conclusion, Tito s'adresse d'abord aux lecteurs de l'histoire yougoslave, des Balkans et de la guerre froide, mais son intérêt est plus large. Les étudiants y trouveront une synthèse substantielle pour relier résistance antifasciste, communisme d'État, conflit avec Moscou, non-alignement et crise d'une fédération multinationale. Les lecteurs déjà familiers de Tito y gagneront surtout un portrait moins binaire que les hagiographies officielles ou les récits uniquement accusateurs apparus après la disparition de la Yougoslavie. L'utilité intellectuelle du livre tient à cette double focale, il explique les décisions et les réseaux qui ont permis à Tito de conquérir puis de préserver le pouvoir, tout en examinant leurs conséquences humaines et institutionnelles. L'ouvrage se démarque des biographies plus brèves par son ampleur documentaire et par son attention au rapport entre la personne de Tito, ses compagnons politiques et l'État qu'il a incarné. Pirjevec ne traite ni la rupture avec Staline, ni le non-alignement comme des épisodes glorieux isolés. Il les replace dans un système autoritaire, une stratégie de souveraineté et une construction personnelle du pouvoir. Inversement, la répression n'efface pas les raisons historiques de la popularité et du prestige international du dirigeant. Cette capacité à tenir ensemble les contradictions, libérateur et dictateur, indépendant face à Moscou et dominateur à l'intérieur, fédérateur national et artisan involontaire d'une succession fragile, fait de Tito une référence particulièrement utile pour comprendre pourquoi la mémoire de la Yougoslavie demeure disputée. C'est une lecture exigeante, mais précieuse pour analyser les effets durables du leadership personnel dans les États plurinationaux. Si vous souhaitez soutenir Jos Pirjevec, vous pouvez acheter le livre via le lien Amazon que j'ai fourni dans la description du podcast. Après avoir lu le livre, faites-moi savoir ce que vous en pensez et partagez vos réflexions. À bientôt.